C'est Christine Cossette au microphone. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de Croire d'hier à demain, réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal. Chaque année, l'Institut pastoral des Dominicains a le bonheur de recevoir des invités d'un peu partout dans le monde. La semaine dernière, André Fossillon, professeur au Centre international Lumanvité à Bruxelles, en Belgique, nous a fait l'honneur de sa visite ici, à l'Institut pastoral. André Fossillon a été directeur de ce Centre international Lumanvité de 1992 à 2002. Il a aussi été président de l'équipe européenne de catéchèse de 1998 à 2006. Chargé de cours aux facultés universitaires de Namur et animateur d'un site internet de documentation et de formation à distance de Lumanvité, notre invité est auteur de « Lire les Écritures », « La catéchèse dans le champ de la communication », Dieu toujours recommencé, une nouvelle foi, 20 chemins pour recommencer à croire, publié celui-là en 2004. Aujourd'hui, André Fossillon vient nous parler de son livre « Dieu désirable », publié conjointement par les éditions Lumanvité et Novalis. Pour notre auteur, le Dieu des chrétiens ne s'impose pas. Croire en lui n'est pas nécessaire pour être heureux, mais ce don est radicalement précieux pour la vie. Cependant, pour engendrer un christianisme libérateur, André Fossillon croit qu'il nous faut revisiter quelques points forts de la théologie chrétienne. C'est ce que nous avons fait avec lui à l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Nous accueillons donc avec plaisir André Fossillon. André Fossillon, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue chez nous, à Montréal, et ailleurs aussi, puisque vous sillonnez depuis votre arrivée au Canada les routes du Québec. Hein. Alors, merci aussi d'avoir accepté de participer à cette série d'émissions qui veut souligner le 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal. Vous vous préoccupez, André Fossillon, de la communication de la foi chrétienne dans notre monde, et ce depuis plusieurs années. La catéchèse est votre spécialité. On pourrait donc penser que pour vous, la foi chrétienne est absolument nécessaire. Pourtant, vous dites dans votre récent ouvrage intitulé « Dieu désirable » que, et j'ouvre les guillemets, « la foi chrétienne, et par conséquent son annonce, est radicalement non nécessaire pour le salut ». Alors, comment expliquez-vous cela?
Mais en disant ça, je dis la foi de chrétienne tout à fait traditionnelle. Pour Dieu, la foi chrétienne n'est pas un passage obligé pour sauver l'être humain. Sa générosité est telle que ça dépasse de loin les chrétiens. J'espère que quand on sera dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas que des chrétiens. Alors c'est bien, je tire la conclusion qui est en fait tout à fait simple. La générosité de Dieu est telle qu'elle déborde de loin les frontières de l'Église, et qu'en ce sens-là, la foi chrétienne n'est pas intrinsèquement nécessaire pour être engendrée à la vie de Dieu. Dans les béatitudes, par exemple, quand on dit « heureux les pauvres de cœur, heureux les artisans de paix », on ne dit pas « heureux vous les chrétiens qui », mais « heureux vous tous et toutes, de toute race, langue, culture, nation, religion ».
C'est vrai.
Le royaume de Dieu est à vous. Voilà pourquoi, je dirais, la foi chrétienne n'est pas en ce sens-là intrinsèquement nécessaire pour être engendrée à la vie de Dieu.
Vous affirmez que la foi chrétienne est radicalement non nécessaire pour le salut. Du même souffle, vous dites qu'elle est radicalement précieuse pour la vie. N'est-ce pas là un paradoxe?
Ah oui, c'est un trésor. Donc, elle n'est pas nécessaire pour être engendrée à la vie de Dieu. Mais reconnaître qu'on est aimé par ce Dieu-là, le reconnaître ensemble, c'est évidemment infiniment précieux et ça change radicalement la vie. Car savoir qu'on est frère et sœur en Jésus-Christ, fils et fille de Dieu, promis à une vie qui ne finira pas, bien entendu, ça change radicalement la vie. Ça donne à la vie une couleur toute différente et c'est comme ça, avec saint Paul, on peut dire, nous sommes des créatures nouvelles. Nous sommes recréés, pour être dit, transfigurés par cette foi, même si elle n'est pas nécessaire pour être engendré à la vie de Dieu, car la générosité de Dieu déborde la frontière de l'Église.
Et qu'est-ce que la foi chrétienne, à ce moment-là, vient ajouter, je dirais, par rapport à la grâce de Dieu déjà à l'œuvre dans le monde?
C'est vrai, il y a déjà une grâce de Dieu. Le fait d'exister, c'est déjà une grâce de Dieu.
Oui.
Le fait de vivre dans l'esprit des béatitudes, c'est déjà une grâce de Dieu. Mais reconnaître que Dieu est là pour nous aimer et qu'il nous aime ainsi, ça donne une couleur nouvelle à notre existence. Ça donne, pourrait-on dire, des motivations supplémentaires pour être heureux, pour s'engager. Je prends un exemple.
Oui.
Prenez le combat pour la justice. Un être humain non chrétien est aussi invité à combattre pour la justice. Mais un chrétien, je ne dis pas qu'il le fait mieux, je ne dis pas qu'il le fait avant les autres, mais il a des motivations supplémentaires pour le faire. Car s'il y a déjà des motifs de combattre pour la justice parce que nous sommes frères et sœurs en humanité, alors à bien plus forte raison, a fortiori, sommes-nous invités à combattre pour la justice si nous croyons en Dieu. Et c'est vrai aussi au niveau de la joie. Il y a des motifs de joie dans l'existence. Mais il y a encore des motifs supplémentaires de joie si on reconnaît qu'on est ainsi aimé de Dieu.
Mm-hmm. Donc cette reconnaissance explicite
vient ajouter quelque chose sans être nécessaire. Et ce qu'elle ajoute, c'est radicalement précieux puisque ça transforme notre existence à la racine. Donc c'est radicalement précieux. On pourrait invoquer ici un passage de la première lettre de Jean, quand il dit « Ce que nous avons vu du Verbe de vie, ce que nous avons touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons pour que vous soyez en communion avec nous, et notre communion avec le Père de Jésus-Christ. Nous vous annonçons cela pour que votre joie soit complétée. »
Ah oui.
Et il faut dire complétée parce que c'est un participe passé passif, donc ça veut dire qu'il y a de la joie, c'est vrai, mais votre joie encore sera davantage complétée. Votre joie et notre joie sera complétée. Vous voyez cet aspect de « nous avons reçu grâce après grâce ». Je crois que c'est dans cette logique-là que j'ai parlé de Dieu désirable.
Mm-hmm. Dans ce mouvement de reconnaissance explicite de la grâce de Dieu dans nos vies, vous parlez dans votre livre « Toujours Dieu désirable » de l'importance d'adopter certaines attitudes. Alors, quelles sont ces attitudes dont vous parlez?
Oui, justement, si on sait qu'on est aimé ainsi de Dieu, même s'il ne se rend pas nécessaire, puisqu'il peut nous sauver sans même que nous ayons la foi chrétienne, la première chose, si nous reconnaissons cet amour-là, la première chose à faire, c'est de se laisser immerger dans cet amour-là.
Oui.
En fait, c'est le baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Une immersion. Une immersion dans quoi? Ou dans l'eau? Ça veut dire une immersion dans l'amour de Dieu et dans cette foi indéfectible que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et je dirais la première attitude, c'est ça, se laisser immerger. Et puis si nous vivons ainsi, si nous nous laissons immerger dans cet amour de Dieu, ben forcément on essaie de le vivre.
Oui.
Et de le répercuter autour de nous. Et là, je dirais, c'est l'aspect de service des autres, de bienveillance fondamentale à l'égard des autres. Puisque Dieu est bienveillant fondamentalement à notre égard, eh bien, cette bienveillance-là, on peut la transmettre, la vivre à l'égard des autres.
Ce que vous appelez la charité, en fait.
La charité, ou ce qu'on pourrait appeler la diaconie. La diaconie au niveau de l'Église, c'est le service. Mm-hmm. Le service gratuit de l'humanité. Ça, c'est le Concile Vatican II avait rappelé ça. L'humanité, elle est ordonnée, au service. C'est vrai qu'il y a des ordinations, mais le diaconat, c'est la première ordination. Mais ça dit quelque chose de l'Église tout entière. Nous sommes tous et toutes ensemble ordonnés à la diaconie, c'est-à-dire au service gratuit de l'humanité, sans prosélytisme, sans ecclésiocentrisme. Quand on aime autrui, quand on rend le monde meilleur, c'est pas pour les convertir, c'est pour rendre le monde meilleur. C'est une fin en soi. Mm-hmm. C'est une fin en soi, la charité, la diaconie. Mm-hmm. Mais sur cette charité, alors vient se greffer la proposition de la foi qui propose quelque chose qui est un trésor et pourtant qui n'est pas nécessaire pour être engendré à la vie de Dieu. Alors on entre dans un espace de gratuité, si vous voulez.
Oui.
Et c'est ça qui rend en fait la foi désirable, je crois.
Donc vous parlez d'immersion dans l'amour démesuré de Dieu, ensuite la charité. Hein, et quelles sont les autres attitudes dont vous parlez?
Bien, l'annonce de la foi, elle est un acte de charité en fait. Pourquoi est-ce que nous annonçons l'Évangile? Non pas pour convertir les autres, non pas pour ceci, pour qu'ils soient comme nous, non pas pour... Non, nous annonçons l'Évangile parce que c'est un acte de charité. On offre à l'autre le meilleur que nous portons et qu'on souhaite pour lui. Et ça a un sens en soi, même s'il n'écoute pas, même s'il n'entend pas, même s'il ne répond pas, ça a un sens parce que tout acte de charité est une fin en soi.
Oui.
Et s'il répond, tant mieux. Mais ça a un sens, même s'il ne répond pas. On lui offre le meilleur qu'on peut lui donner et qu'on espère pour lui.
Un peu comme des parents donnent le meilleur à leurs enfants, voilà, sans savoir.
Et cette charité nous presse alors à annoncer la foi. Donc, si la foi n'est pas nécessaire pour être engendrée à la vie de Dieu, annoncer la foi est nécessaire.
Ah oui.
C'est de la nécessité même de la charité qui nous est donnée par Dieu. Donc, en ce sens-là, l'annonce de la foi n'est pas superfétatoire, c'est vraiment essentiel. Si nous n'annonçons plus l'Évangile, c'est que nous n'aimons pas assez autrui, au fond.
Ah, oui, ah, oui.
Mais la charité nous presse d'annoncer l'Évangile parce que nous croyons que c'est bien pour eux. Et nous le croyons, même s'ils ne répondent pas positivement.
Mm-hmm. Vous avez parlé de voir Dieu en toute chose. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Mais voir Dieu en toute chose, c'est une formule de la spiritualité ignatienne.
Ah oui.
Ça renvoie à une expérience de Saint Ignace de Loyola. Au début de sa vie, il voulait être il était militaire avant. Mm. Puis il s'est converti parce qu'il a eu il a été touché par un boulet de canon qui lui a cassé la jambe. Et puis pendant sa convalescence, il lisait des livres de chevalerie et des livres de saints. Et il préférait, au fond, il était plus attiré par la vie des saints, finalement. Et donc il a changé. Et de militaire, il est devenu un mystique, si on peut dire. Il a cherché la sainteté. Mais il a cherché la sainteté comme un militaire, c'est-à-dire en voulant le gagner et en voulant l'avoir par lui-même. Et il est devenu malheureux comme tout, il a raté tout. Il faisait des exercices d'ascèse, de prière, mais il était malheureux comme tout, il voulait même se suicider. Et à un moment donné, il se rend compte, mais ce que je fais ici, c'est inutile. Je cherche l'amour de Dieu, mais il m'est donné.
Ah oui.
Si vous voulez, il passait d'une sorte de christianisme du mérite, de la conquête, à un christianisme de la grâce, c'est-à-dire qu'on ne mérite pas. Et on baigne dans l'amour de Dieu, sans même qu'on l'ait demandé, sans même qu'on ne le voit, on est dans cet amour de Dieu. Alors, c'est ça, voir Dieu en toute chose, c'est se reconnaître cette présence de Dieu qui nous entoure. Un poisson qui est dans l'eau, il ne se rend pas compte qu'il est dans l'eau. Eh bien, nous, parfois, on ne se rend pas compte qu'on est dans cet amour de Dieu. Et justement, voir Dieu en toute chose, c'est se rendre compte du bain dans lequel nous sommes et qui est le bain de l'amour de Dieu. Même là où il y a de la souffrance ou même du mal, on peut encore voir Dieu, parce qu'il est descendu aux enfers, justement, pour nous sauver des enfers. Et donc, même dans le malheur, même là où il nous semble qu'il n'est pas là, on peut encore le voir.
Même si on se sent abandonné.
Même si lui ne nous abandonne pas.
Lui ne nous abandonne pas. Vous parlez d'un style gracieux comme attitude. Qu'est-ce que c'est?
J'aime bien le mot grâce, parce que c'est un mot. C'est un mot de la langue, mais c'est aussi un mot théologique. Mais regardons un peu dans la langue. Vous avez beaucoup de mots qui sont construits autour de grâce. Vous avez grâce, bien sûr, gratuit, gracieux, gracile, gracié, agrément. Mmh. Vous voyez, ça c'est tout le champ sémantique du mot grâce. Donc il y a l'aspect de gratuité, donc, l'aspect de pardon, gracié, l'aspect de beauté, gracieux. L'aspect de plaisir, agrément, agréable, joie. L'aspect gracile, c'est délicatesse, fragilité, douceur. Eh bien, le champ de la grâce, c'est tout ça. Et dans le livre « Dieu désirable », ce que, au fond, je voudrais essayer de communiquer, là, c'est le goût d'entrer dans un rapport avec Dieu qui est de ce style-là.
Ah oui.
Où il y a de la grâce, du gratuit, du pardon, de la miséricorde, de la beauté, du plaisir et de la douceur.
Mm-hmm.
Et pourquoi ne pas avoir un rapport à Dieu comme ça? Ça change beaucoup de choses.
Oui, oui. Vous dites, toujours dans votre livre, qu'un christianisme arrive à sa fin, au sens où comme le dit la sociologue Danielle Hervier-Léger, il y aurait une expulsion hors de la culture d'un ensemble de références chrétiennes. D'après vous, est-ce pour autant la fin du christianisme?
On voit bien qu'il y a la fin d'un certain christianisme.
Oui,
il suffit d'aller voir dans les églises, elles se vident. C'est sûr que nous connaissons une crise très profonde à cet égard. Je pense qu'ici, au Québec, on parle de révolution tranquille, qui est un peu l'éloignement de beaucoup de gens, de la foi qu'ils ont reçue, de la manière dont ils vivaient le christianisme. Mais c'est justement ce christianisme-là peut-être qui meurt. C'est peut-être le christianisme de la loi, de l'observance, des commandements, des pratiques obligatoires, des théologies du jugement. Enfin, à un moment donné, beaucoup de gens se sont rendus compte, non, ça ne va plus, ça ne me fait plus vivre. Et ils sont partis sur la pointe des pieds, non pas parce qu'ils devenaient mauvais, mais pour vivre. Ils sont partis pour vivre, il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est une véritable crise. Mais les crises sont toujours des moments d'invention aussi.
Oui.
Ce n'est pas uniquement une crise religieuse aujourd'hui, il y a une crise financière, une crise économique, une crise climatique, enfin, il y a une crise en tout. Il y a une crise du christianisme, mais de même que ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du christianisme. Et les temps de crise sont des temps d'inventivité, de renouveau. Eh bien, voilà justement, il y a peut-être un espace de renouveau pour le christianisme qui est déjà en cours. On ne le voit peut-être pas. Il y a un proverbe africain qui dit « Le vieil arbre qui craque fait plus de bruit que la forêt qui pousse
». Oui, oui.
Alors, c'est vrai qu'il y a un arbre qui craque, ça fait beaucoup de bruit, mais il y a aussi une forêt qui pousse. Et quand on voit ce qui se passe dans les paroisses, dans les communautés chrétiennes, vraiment, il y a beaucoup de vitalité. Il y a un christianisme, je vais dire, intelligent, ouvert, heureux, qui est en train de... fraternel aussi, qui est en train de renaître. Bien sûr, c'est peut-être pas majoritaire, mais il faut savoir que ça existe. Mais ceux qui sont partis, parfois, ne se rendent pas compte de ce qui est en train de naître petit à petit et qui marque, je pense, un véritable renouveau du christianisme, ce que j'espère en tout cas.
Pour que naisse ce nouveau christianisme, vous parlez de changement hein, qu'il faudrait apporter justement pour contribuer à l'engendrement du christianisme à venir. Alors, quels seraient ces changements-là?
Mais je pense qu'on est en train de sortir d'un christianisme qu'on pourrait appeler un christianisme de la loi, où il fallait faire. Vous vous rappelez, dans les vieux catéchismes de nos grands-parents, c'était les vérités qu'il faut croire, les sacrements qu'il faut recevoir, les commandements qu'il faut observer, et si on n'observe pas, on est puni, et il y a un Dieu juge qui nous regarde tout le temps, qui nous surveille. Ce christianisme de la loi, on peut dire qu'il est mort. On peut dire qu'il est mort. Mais il y a un christianisme de la grâce, justement. On a parlé de la grâce tout à l'heure. Ce christianisme-là de la grâce, je pense qu'il est vivant. Il est en train de naître, de renaître. Parce que ce n'est pas nouveau, en fait. Ce n'est pas nouveau. Si on voit l'Évangile, c'est là depuis le début.
Oui.
Mais ça a peut-être été étouffé par une certaine forme de christianisme. Et maintenant, il est en train de renaître. Si on va au cœur de la foi... Et ça, je crois que c'est important. Quel changement faut-il? Je pense qu'il faut aller au cœur de la foi, retrouver cette saveur de la bonne nouvelle, parce que finalement, le christianisme, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une morale, c'est pas un commandement, c'est pas des observances. C'est d'abord et avant tout une bonne nouvelle qui nous tombe dessus, si on peut dire, qu'on ne mérite pas. Alors maintenant, le tout, c'est d'y adhérer, mais c'est d'y croire. Alors il faut réfléchir. Mais c'est d'abord une grâce, c'est d'abord... Une bonne nouvelle, c'est là pour notre joie, pas pour autre chose. Si le christianisme n'est pas pour la joie, on peut fermer boutique.
Nous reprenons cette entrevue avec André Fossillon, professeur au Centre international l'humanité à Bruxelles. Vous proposez dans votre ouvrage intitulé « Dieu désirable » de revisiter quelques points forts de la foi chrétienne en les exprimant d'une manière inspirante. Et vous commencez par le concept de création. Alors, comment parlez-vous de la création du monde par Dieu?
Mais il me semble que quand on entend le mot « création », spontanément, regarde vers l'arrière.
Oui.
On regarde le premier moment, on parle de Big Bang, on parle d'Adam et Ève. Alors, on fixe la création dans le passé. Or là, je crois qu'il faut changer nos manières de penser. En fait, la pensée de la création, elle trouve son point d'ancrage dans l'expérience du présent. Et dans cette expérience du présent, on éprouve que nous ne sommes pas à nous-mêmes l'origine de notre propre existence. Il suffit que nous arrêtions de respirer pendant 5 minutes et nous sommes morts.
Oui.
Donc, cette existence que nous l'avons, mais nous n'en sommes pas l'origine, nous n'en sommes pas les maîtres. Et donc la vie, on la reçoit. Et ça, je pense que c'est fondamentalement l'expérience de la création. C'est pas d'abord, c'est pas dans le passé qu'on fait l'expérience de la création. C'est dans le présent où on éprouve que la vie, le mouvement, l'être, on le reçoit. Et nous n'en sommes pas les maîtres, on n'est pas à soi-même l'origine de sa propre existence. On n'est pas son propre père, si on peut dire. La vie n'est pas en nous comme un droit, comme un dû, mais nous la recevons comme un don au présent, c'est au présent. Alors, pas seulement au présent, justement, mais aussi dans le passé, bien sûr, et dans l'avenir.
Oui.
Alors, vous voyez, ça change beaucoup de choses. Parce qu'alors, la création, elle est derrière nous, elle est maintenant, et peut-être surtout devant nous.
Et comment elle est devant nous?
Mais regardez, Vous prenez le premier livre de la Bible, c'est le texte, c'est un texte de création, comme on dit, mais vous prenez le dernier livre.
L'Apocalypse.
C'est aussi un texte de création. Qu'est-ce qu'on dit dans ce livre-là? Voici que j'ai fait toutes choses nouvelles. On parle de cieux nouveaux, on parle de terre nouvelle. C'est aussi un livre de création. Vous prenez saint Paul, qu'est-ce qu'il dit sur la création? Il dit, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement et ce qui vient est sans commune mesure par rapport à ce qui a été. Vous voyez que saint Paul l'a dit, mais la création, il ne faut pas regarder derrière nous. La création, elle est devant nous, elle est encore à venir et elle peut nous réserver des surprises. Ça, je crois aussi, c'est très important. Nous ne sommes, en fait, on pourrait dire ceci, nous ne sommes pas au bout de l'expérience de la création par Dieu. Et cette création par Dieu, qui est toujours en cours, qui est inachevée, Dieu nous rend partenaires de cette création. Il ne nous fait pas sans nous demander, pourrait-on dire, notre collaboration. En ce sens, il nous rend libres. Mais la création est encore devant nous et on pourrait dire en ce sens-là que l'acte créateur de Dieu accompagne l'histoire. Ah. C'est-à-dire, ne mettons pas l'acte créateur de Dieu au début, mais mettons-le à tous les moments de l'histoire.
Ah, oui.
L'acte créateur de Dieu, c'est l'histoire du salut d'ailleurs. Bon, l'histoire du salut, qu'est-ce que c'est sinon l'acte de création de Dieu qui nous accompagne de jour en jour, qui nous crée et nous recrée. La résurrection, d'ailleurs, elle est pensée dans l'Écriture comme une recréation.
Oui.
Vous êtes des créatures nouvelles. Alors, le Dieu qui nous a suscités à la vie, pourquoi ne serait-il pas capable de nous ressusciter? L'acte de création, il nous accompagne. Et donc, au fond, ça nous invite à une espérance folle, quoi. Oui. À travers la mort elle-même. Mais si la création est ordonnée comme ça à une recréation, il faut savoir quitter. C'est vrai, comme un enfant doit pouvoir quitter son enfance pour devenir adulte.
Oui.
Aussi, dans la vie, il faut pouvoir quitter. Et c'est vrai qu'on est mortel, mais la mort, alors, est prise dans un mouvement qui nous conduit vers une vie plus grande encore. Enfin, on pourrait poser la question comme ça. Est-ce que nous sommes des êtres vivants dont l'horizon est la mort, ou bien des êtres mortels dont l'horizon est la vie?
La question est belle.
Oui, c'est la question est belle. Le message du christianisme, c'est de nous dire cela. Oui, c'est vrai, nous sommes des êtres vivants dont l'horizon est la mort, mais nous sommes aussi des êtres mortels dont l'horizon est la vie.
Donc cette idée de création, vous la présentez comme don, hein,
comme
et
don.
Comme don inachevé, hein, qui amène à ne pas opposer science et foi, hein, parce qu'on a souvent opposé science et foi. Alors elle permet aussi cette idée-là d'éviter un deuxième écueil, qui est de parler de la création en termes de causalité, dites-vous dans votre livre. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Parfois, on cherche une cause au monde.
Mm-hmm.
On dit, hein, voilà, le monde existe, mais on cherche une cause. Alors la cause première, ce serait Dieu. Ce serait Dieu qui serait à l'origine du monde comme cause.
Ouais.
Je ne dis pas que c'est faux, peut-être, mais c'est un langage qui est inadéquat. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais est-ce que vous avez dit que vous êtes la cause de vos enfants?
Non.
Est-ce que vos enfants vous aiment comme une cause?
Non.
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 Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. Mais vous dites, j'ai donné la vie à mes enfants.
Oui.
Ils me reconnaissent comme donateur, donatrice de la vie, mais pas comme cause. Alors, donc, vous voyez, c'est très dangereux de mettre Dieu en cause. Parce qu'alors, quand il y a un malheur qui nous arrive, qu'est-ce qui se passe? Alors, on met Dieu en cause.
Ouais.
Alors, on dit les responsables. Puis on dit, s'il y a du malheur, et Dieu est en cause, donc Dieu est mauvais, ou bien il n'existe pas. Alors, à ce moment-là, c'est l'incroyance à cause du mal. C'est vrai que beaucoup de gens, à partir du moment où ils cherchent justement une cause et qu'ils voient Dieu comme une cause, comme ils voient le mal, ben ils disent la cause est mauvaise. Dieu est mauvais ou bien il n'existe pas. Donc il faut changer. Je crois qu'il faut sortir de ce langage de la cause et parler justement du langage du don. Dieu donne. Et puis le langage du don aussi a cet avantage peut-être d'aborder le problème du mal d'une autre façon.
Oui, et comment?
Bien parce que quand on donne quelque chose à quelqu'un, à un moment donné, vous lâchez prise. Si je vous donne ce livre aussi, par exemple, je vous le tends, mais à un moment donné, si je vous le donne vraiment, je dois le lâcher.
Oui.
Si je ne le lâche pas, vous n'allez pas être contente. Alors, en ce sens-là, la donation implique toujours une perte de pouvoir.
Oui.
Vous donnez la vie à votre enfant, mais vous n'êtes pas maître de l'enfant. Et à un moment donné, vous lâchez prise par rapport à lui. Si vous ne lâchez pas prise, vous allez l'étouffer.
Oui.
Et donc, par rapport à la vie que vous avez donnée à votre enfant, il n'y a rien à faire, vous prenez un risque. Vous prenez un risque pour lui, pour l'enfant, et vous prenez un risque pour vous.
Alors, comme Dieu a pris le risque
comme
de
Dieu
créer.
A pris le risque, et pour lui aussi. La création est risquée en ce sens-là.
Ouais.
Mais le risque, et la création est hasardeuse. Et Dieu a autorisé le hasard, parce qu'en ce sens, il n'est pas maître de ce qui arrive. Nous ne sommes pas déterminés dans une histoire qui est toute faite, écrite a priori. Mm-hmm. Autrement, il n'y aura pas de liberté non plus. Penser la création comme don permet d'aborder la question du mal d'une autre façon, en disant la création, c'est vrai, est risquée. Dieu, en créant, perd un certain pouvoir. C'est un peu le symbole du septième jour dans la Bible. Oui. Il est écrit, c'est un symbole évidemment. Mm-hmm. Il a créé pendant 6 jours et puis le septième jour, il se repose, il se retire. Mmh. Et la création démarre, mais sans que Dieu soit pour le monde une assurance tout risque, si vous voulez.
Mmh. Vous parlez aussi du péché originel, hein, tel qu'on nous l'a présenté pendant longtemps. En tout cas, aujourd'hui, ça heurte nos sensibilités contemporaines.
Oui, c'est une expression qui a fait difficulté.
Mais alors, vous le présentez autrement, le péché originel?
Parce qu'avant, peut-être qu'on considérait le péché originel comme s'il y avait une tâche qui était au fond de notre être et qui nous rend coupables.
Oui, en naissant.
Oui, coupables et aussi méritant la mort. Mm. Oh, c'est terrible, au fond. Mm. Mais je pense qu'il y a moyen de penser tout autrement le péché originel. Moi, je dirais ceci. Le péché originel, c'est le fait qu'on se découvre toujours dans un monde où il y a de la violence. Une violence qu'on a subie, une violence aussi qu'on a donnée. Qui peut dire qu'il n'a jamais été violenté verbalement, physiquement? On a reçu des coups des autres. Et nous-mêmes, on a répondu aux coups. On a insulté, on a blessé, on a heurté. On se découvre comme ça, même avant même qu'on ne le veuille, d'une certaine façon, on est pris là-dedans, qu'on le veuille ou non. Et je dirais, c'est ça le péché originel. C'est cette expérience que le mal nous précède, que nous avons subi du mal, et que nous avons fait du mal aux autres,
ouais.
Et que ça nous colle à la peau. On est pris là-dedans. On n'est pas exempt. Personne n'est exempt de ça. En ce sens, il touche tout le monde. Et c'est une expérience d'une situation dans laquelle on est, du verbe naître. On est.
Mm-hmm.
Mais aussi, on peut devenir complice du mal. Et faire du mal, ça demeure. Mais ça, alors je dirais, c'est le péché qu'on fait vraiment par la faute.
Volontairement.
Mais... Mm-hmm. Le péché originel, c'est plutôt la situation dans laquelle on se découvre, et qui est une situation de violence, à la fois subie et à la fois donnée. Mais le péché originel n'est jamais le dernier mot. C'est-à-dire, quand on voit la Bible, quand on lit la Bible, même s'il y a l'évocation d'une situation de péché qui concerne tout le monde et qui nous tient ensemble, il y a une promesse de salut qui surplombe ça et qui est plus originelle, pourrait-on dire, que le péché originel. C'est-à-dire que cette promesse va accompagner toute l'histoire et va l'orienter vers une espérance. Et nous croyons, nous comme chrétiens, que, vous savez la promesse qu'on trouve dans la Bible, quand dans la Bible, Dieu dit au serpent, un jour le lignage de la femme, c'est-à-dire l'histoire humaine, t'écrasera la tête, mais toi tu l'écraseras au talon. Nous croyons comme chrétiens qu'un jour, effectivement, le lignage de la femme, c'est-à-dire l'histoire humaine, a vaincu le mal, même si le mal nous a blessés. Pour nous, c'est ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Il a été tué à mort, mais en même temps, étant tué à mort et ne répondant pas à la violence, par la violence, il a tué le mal. Il a été plus fort que le mal. Donc, pour nous chrétiens, nous voyons en Jésus-Christ celui qui a accompli, d'une certaine façon, cette promesse originelle de salut, de victoire, sur le mal par l'amour. Alors cette victoire, elle est acquise d'une certaine façon, déjà fondamentalement parce que nous croyons qu'elle est acquise, mais elle doit encore effectivement se déployer. Nous croyons qu'elle se déploiera définitivement dans le royaume de Dieu à venir, où toute chose sera réconciliée.
Même si cette violence dont vous parliez est comme naturellement en nous, même si cette violence est là avant nous on, en tant que chrétien, on a cette espérance donc que l'amour dépasse finalement cette violence.
Que l'amour est plus fort que le mal, que la vie est plus forte que la mort.
Uh-huh.
Et nous voyons cette victoire-là en Jésus-Christ, effectivement.
Toujours dans votre livre, vous expliquez que le récit des 3 tentations de Jésus au désert vient cristalliser toute la vie de Jésus, comme si son message et son action se retrouvaient tout entiers dans ce récit-là.
Oui, alors, comment il vous rencontre le mal. En fond, c'est un récit symbolique, bien entendu.
Bien sûr, oui.
C'est un récit qui vient juste avant son entrée dans la vie publique et après son baptême.
Mm-hmm.
Le texte dit, c'est dans Saint-Luc, le texte dit, après le baptême, par Jean-Baptiste, l'Esprit descend sur lui. Et il y a une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». aujourd'hui j'étais engendré. Et puis après ça, il y a une généalogie, on restitue Jésus à l'intérieur de l'histoire, justement le lignage. Mm-hmm. Hein? Et ce lignage remonte, fils d'Adam, fils de Dieu. Mm-hmm. Et puis commence la tentation, rempli d'un souffle saint, dit le texte, il est conduit par l'Esprit de Dieu au désert pour y être tenté. Et il va traverser, au fond, toutes les tentations de l'humanité. Donc, c'est symbolique. Il va traverser toutes les tentations de l'humanité, toutes les tentations du peuple d'Israël, et il va les surmonter toutes. Justement, là, on voit que le lignage, parce qu'il fait partie du lignage de l'humanité, il va dépasser toutes les tentations. Et au fond, en rencontrant toutes les tentations, il va exprimer quel est son désir. Quel est ce souffle saint, finalement, son désir? Quel est le souffle saint qui l'habite?
Oui.
Et alors, après cela, elle commence sa vie publique. Et au fond, ce récit des tentations est un peu son programme. Vous comprenez ce que je veux dire? Un peu son programme de vie.
Oui.
Ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Vous avez tout, au fond, là-dedans. Mm-hmm. C'est une sorte de condensé de l'évangile, les tentations. Alors, par exemple, la première tentation, c'est la tentation du pain. Mm-hmm. Alors, il répond, l'homme ne vit pas seulement de pain. Vous voyez que la question, c'est une question d'humanité. L'homme, s'il ne vit que de pain, n'est pas homme, véritablement. Ça ne veut pas dire que le pain n'est pas important, parce que s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vie.
C'est ça, bon. Ouais.
Mais si on rive son désir sur la consommation, sur l'avoir, on n'est pas humain. Mm-hmm. Alors je dirais ceci, enfin pour Jésus, l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de le partager.
Ah oui.
Alors ça devient...
C'est très contemporain, hein?
Oui, bien sûr.
Dans un monde de consommation.
Oui. Aussi, on vit de partager. On ne faut pas river son désir sur la consommation des choses, sur l'avoir, mais sur le partage, c'est-à-dire sur la parole. L'homme vit de parole. Ouais. Regardez un repas, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un repas où on ne bouffe pas? Enfin, bouffer, c'est manger tout seul.
C'est se rassasier.
C'est empiffrer, oui. Ouais. Mais un vrai repas humain, c'est un repas où on invite à sa table d'autres, on fait attention à l'autre. On passe des plats.
Ouais.
Et quand on mange, on entretient le corps, bien entendu, mais on entretient la relation aussi. Mm-hmm. Alors, ça, c'est tout autre chose. Et les organes par lesquels nous mangeons, c'est aussi les organes par lesquels nous parlons.
Ah oui, ah, c'est intéressant, ça.
Oui.
Ah, oui.
Quand on mange, ça rentre.
Oui,
quand
oui.
on parle, il faut arrêter de manger. Et c'est un souffle qui sort, et l'autre ne le consomme pas.
Non.
Mais on entretient une relation. Alors, à ce moment-là, on entre en humanité, si on peut dire.
Oui.
Si l'homme, s'il fixe son désir sur les choses, il n'est pas véritablement humain. Alors c'est vrai aussi dans d'autres domaines, dans le domaine affectif, dans le domaine économique. Si on est simplement dans la possession des choses, c'est inhumain.
Mm-hmm.
On n'est pas, on n'a pas franchi le seuil de l'humanité.
Donc ça, c'est la première tentation.
Oui.
Et puis, vous nous donnez le goût d'aller voir les deux
deuxième,
autres.
C'est être homme-femme, faire émerger l'humanité de l'animalité, parce que c'est vrai, nous sommes des êtres animaux.
Oui.
Mais faire émerger notre humanité par la parole. Alors, pas seulement ça, mais... alors, la deuxième tentation, c'est une tentation du pouvoir.
Oui.
C'est le diable qui dit, si tu te prosternes devant moi, donc si tu te laisses dominer, tu domineras tout le monde.
Oui.
Le pacte du diable, c'est, laisse-toi dominer et tu seras dominant.
Mmh.
Et Jésus récuse cette tentation et il dit, je ne veux être ni dominant.
Mmh.
Or, qu'est-ce que c'est qu'une relation où personne ne domine, sinon la fraternité?
Ah oui.
La fraternité, c'est ne pas dominer l'autre et être en relation de reconnaissance mutuelle.
Oui.
Et Jésus était fraternel, fondamentalement,
vulnérable.
Il n'a pas pris des armes, il est entré sans armes. Et fond, l'enjeu de la deuxième tentation, son désir, c'est être frère-sœur.
Ah oui.
La troisième tentation, là, c'est le texte, c'est symbolique, bien entendu, tout ça. Le diable le conduit sur le fait du temple et il lui dit, jette-toi par-dessus le temple, il ne t'arrivera rien, tu es fils de Dieu. Tu ne t'arriveras à rien. Il y aura toujours quelqu'un pour un ange pour t'éviter que ton pied ne heurte la pierre. C'est-à-dire que tu meurs. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour t'éviter de mourir.
Mm-hmm.
C'est la tentation d'immortalité. Oh, la tentation d'immortalité, c'est de croire d'une certaine façon et de pouvoir tout faire.
Mm-hmm.
Comme si on était invulnérable. C'est croire, au fond, qu'on a la vie en soi comme un droit, comme un dû et pas comme un don, justement.
Ah.
Or, reconnaître la vie comme un don, c'est se reconnaître fils et fille. D'un autre, de quelqu'un qui a donné la vie. Alors, vous voyez, on pourrait dire le désir de Jésus, c'était ça. Enfin, c'est une manière de lire le texte. Hein. Mais son désir, c'était que l'humanité émerge de son animalité, que l'humanité émerge par la parole, par la rencontre de l'autre. Non seulement par la rencontre de l'autre, mais que cette rencontre de l'autre soit une rencontre fraternelle. sortir de la violence, en d'autres termes. Pour la deuxième tentation, c'est sortir de la violence. Mais non seulement sortir de la violence et être fraternel, mais reconnaître dans cette fraternité qui nous unit une puissance qui nous fait vivre et qu'on peut appeler notre Père, où on se reconnaît comme fils et filles.
Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de André Fossillon, professeur au Centre international l'humanité à Bruxelles. Nous avons avec vous revisité quelques points forts de la foi chrétienne, mais il nous reste quand même, il nous reste à parler de ce Jésus qui a humanisé, qui a fraternisé, qui n'a pas forcément été accueilli par tous, hein, puisqu'on l'a tué. Alors, comment comprenez-vous l'événement de la mort de Jésus?
Eh bien, ça, c'est une chose effectivement incompréhensible, en fait. Comment se fait-il qu'un homme qui a humanisé, fraternisé, qui a appelé à reconnaître un Dieu Père, comment se fait-il qu'on l'a tué? Et qui l'a tué? Vous savez qui l'a tué?
Mm-hmm.
Les religieux de son temps.
Mm-hmm.
Jésus a été tué par la religion de son temps. Non, plutôt pas par la religion, il ne faut pas accuser le judaïsme, mais par les religieux de son temps, les responsables religieux. Ils l'ont tué et ils ont dit, cet homme-là ne parle pas comme nous. Il conteste notre autorité, il est du côté de Satan, il mérite la mort. C'est quand même terrible pour tous ces gens-là d'avoir mis Jésus du côté de Satan. Et ils ont dit, c'est un blasphémateur, il mérite la mort, il met en danger notre religion, il met en danger notre pouvoir. Et ils l'ont tué pour ça, avec la collusion des pouvoirs politiques, en manipulant les
Romains.
Les Romains. Quand on voit une croix, quand vous voyez une croix, vous voyez deux choses. Vous voyez jusqu'où peut aller la violence humaine. Il n'y a pas de limite à la violence humaine. La croix nous dit qu'il n'y a pas de limite à la violence humaine. Et c'est vrai, quand on voit l'histoire humaine, on voit qu'il n'y a pas de limite. Quand on pense au génocide, aux tortures, aux meurtres d'enfants, enfin, c'est inimaginable. L'humanité peut être terrible dans la violence. Et ça, sur la croix, on voit ça. Mais en même temps, sur la croix, vous voyez un homme qui ne répond pas à la violence par la violence. Donc,
exactement,
il est tué par la violence, et en même temps, il vainc la violence en ne répondant pas à la violence par la violence, mais en demandant le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et alors, s'il ne se passait rien, si ça se terminait comme ça, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait,
Un échec de plus.
Un échec. Mais de plus, et en même temps définitif. C'est-à-dire, si cet homme-là meurt comme ça, et que rien ne se passe, ça voudrait dire que pour l'histoire humaine, la mort a gagné et le mal a gagné. Mais justement, la foi chrétienne, c'est de dire il s'est passé quelque chose. Alors, Dieu n'est pas intervenu.
Non, et en ce sens-là, on peut dire qu'il est impuissant.
Impuissant.
On peut pas parler de la puissance de Dieu là, quand on regarde la croix.
Ça. S'il arrêtait le bourreau qui tue, ce serait au fond une manière de revenir sur son don. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit le don risqué. Ça voudrait dire, je me suis trompé. Il faut revenir en arrière. Je n'aurais pas dû donner. Donc, on voit la toute impuissance de Dieu. Mais sur la croix, vous voyez aussi la toute puissance de Dieu. Mais là, vous la voyez dans la résurrection.
Ah oui.
Dieu n'intervient pas pour arrêter la main du bourreau qui tue, mais il intervient pour sauver de la mort Jésus-Christ.
Oui.
Et la résurrection, en ce sens, c'est Dieu qui, d'une certaine façon, est indigné par cette situation-là et qui rend témoignage à Jésus-Christ. Et rend témoignage, il rend justice, non seulement témoignage, mais justice à Jésus-Christ. Et en ce sens, la résurrection est une révélation de Dieu.
Oui.
On sait maintenant où est Dieu. C'est-à-dire, les chefs religieux avaient dit, cet homme-là, il est du côté de Satan. Mais en le ressuscitant, Dieu dit l'inverse. Il dit à tout le monde, mais j'étais à côté de cet homme-là. Si vous voulez savoir qui je suis, regardez-le. Si vous voulez savoir comment j'aime, regardez-le. Et en ce sens, la résurrection, c'est une révélation de Dieu.
Oui, on est loin d'une théologie qui considère la souffrance de Jésus comme on disait, comme le prix à payer pour sauver les hommes de leurs péchés.
Oui, ici, en fait, c'est pas la souffrance de Jésus qui nous sauve.
Non.
C'est
non.
Son amour en croix.
Exactement.
C'est l'amour, c'est autre chose. C'est le fait qu'il ne réponde pas à la violence par la violence. C'est ça qui sauve.
Oui.
Mais c'est pas le fait, c'est pas la quantité de souffrance.
Non.
La quantité de souffrance, elle est horrible. Il faut combattre ça. On doit combattre toute souffrance. Mais ce qui nous sauve dans la croix, c'est cette capacité d'aimer. Saint Paul dit ça d'une manière, dans une formule extrêmement ramassée, mais dense. Là où le péché, ou là où la violence a abondé, la grâce, c'est-à-dire la bonté, la charité, à surabonder. Mm-hmm. Et c'est ça, c'est cette surabondance de la charité sur la violence qui sauve. Mais ce n'est pas sa souffrance.
Non.
La souffrance est mauvaise. Mm-hmm. Jésus n'a jamais, d'ailleurs, aimé souffrir.
Il l'a combattu toute sa vie.
Et il a fait l'œuvre de son Père, oui. Il a fait l'œuvre de son Père en aimant jusqu'au bout. C'est vrai, mais c'est son amour qui sauve. Ce n'est pas sa souffrance. Et la souffrance n'était pas le prix à payer comme une sorte de sanction qu'il prenait sur lui pour qu'on soit lavé de nos péchés. Mm-hmm. Non, le Christ sur la croix, il nous montre l'amour inconditionnel de Dieu.
Mm-hmm. On a là un bon exemple, je dirais, d'une théologie qui rendait Dieu non désirable. Hein?
Tout à fait, insupportable.
C'est ça, insupportable même. Oui. L'autre concept à revisiter est celui de la foi. En la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit, vous parlez de la Trinité comme d'un modèle de communication.
Oui, le mot Trinité ne vient pas dans les Écritures, mais dans les Écritures, dans l'Évangile, vous voyez, on parle du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais c'est dans les siècles qui ont suivi qu'on s'est demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Oui.
Alors, il y a des gens qui ont dit, ah bon, il y a trois dieux. Il y a des gens qui ont dit ça. Alors, les conciles ont dit, non, il n'y a pas trois dieux, on reste dans le monothéisme. Comment comprendre ça? Alors, certains ont dit, alors, s'il n'y a pas trois dieux, qu'il n'y a qu'un dieu, ce sont des modalités de Dieu. Comme,
des façons différentes de comprendre
des
Dieu.
Des façons de le voir. Par exemple, le soleil, il est rond, chaud et lumineux.
Oui.
Eh bien, on peut voir quelque chose d'en haut, de bas, de profil. Si
oui.
Eh bien, Dieu apparaît sous différents angles. On a dit non, c'est pas comme ça, c'est vraiment des personnes différentes. Et puis alors, il y en a, ah bon, ce sont des personnes différentes, mais alors, c'est qu'il y en a quand même une qui est plus grande que l'autre. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le subordinationnisme, c'est-à-dire, on a hiérarchisé, on a mis le Père au-dessus, puis le Père, mm-hmm. et puis on a en dessous le Fils, et en dessous l'Esprit, et en dessous nous autres, tout ça. Mm-hmm. Bon, ça aussi, c'est une théorie qui a été récusée pour arriver finalement à l'idée Dieu est un en trois personnes distinctes et égales. Ça, c'est un peu. Alors maintenant, ça paraît peut-être un peu abstrait comme formule. Mais au fond, c'est une manière de parler de Dieu comme amour. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'être un? Faire une unité ensemble. Être différent et être égaux, sans domination. Mais ça, c'est une définition de l'amour.
Oui.
Alors on pourrait dire, justement, c'est ça l'originalité de la foi chrétienne, c'est de penser Dieu comme une unité aimante de communication. Dieu est lui-même amour. Donc, il veut est lui-même donner, recevoir, rendre. Mm-hmm. On pourrait dire le Père est celui qui donne, le Fils est celui qui reçoit, et le Saint-Esprit, pourrait-on dire, parce que ce n'est pas une explication du mystère divin. Mm-hmm. Donc, mais je veux dire, ça donne à penser, si vous voulez, ça donne mm-hmm. à penser. Mm-hmm. Et toutes les formes d'amour sont présentes en Dieu. Il y a l'amour filial, parental. D'ailleurs, faire fils, c'est une manière de dire, c'est l'amour mm-hmm, filial. Mm-hmm. Mais il y a d'autres expressions où c'est plus amical. Si vous voyez, par exemple, l'icône de la Trinité de Roublev,
oui.
Ce sont des personnes qui ont le même âge. C'est pas, c'est plutôt un lien d'amitié.
Oui.
Saint Augustin, lui, va parler en termes de conjugalité. Il va dire, dans l'amour, oui, dans l'amour, il y a l'amant, l'aimé et l'amour. Ce sont des images conjugales. Donc, on pourrait dire, Nous vivons des amours de manière différenciée, mais toutes les formes d'amour sont présentes en Dieu. Et Dieu aussi est mère. Ce qui est important, c'est de dire, c'est l'engendrement. Dieu engendre. Alors, il engendre comme père et mère. Mm-hmm. Ce qu'on peut dire, c'est que, et là, ça nous touche de tout près, il y a dans la Trinité qui est donner, recevoir, rendre, et donc une unité de communication qui crée la différence sans que la différence n'occasionne de la domination. Mm-hmm. Mais ça, c'est notre problème à nous.
Ouais.
C'est notre vie. En quoi consiste notre vie? Sinon, à essayer quand même de faire une certaine unité entre nous. On parle de l'unité familiale, on parle de l'unité nationale, on parle du bien commun. Mm-hmm. Nous sommes invités à faire l'unité. Mais une unité qui n'est pas une uniformité. Une unité qui autorise les différences. Et non seulement qui autorise les différences, mais qui favorise les différences. Mm-hmm. Qui se réjouit des différences. Mm-hmm. Mais sans que l'unité ni les différences ne donnent prise à la violence, à la domination. Mm-hmm. Et si nous vivons comme ça, si nous cherchons l'unité dans la différence, dans la joie des différences, sans que ces différences n'aboutissent à des dominations, alors l'Esprit Trinitaire habite en nous. Mm-hmm. Dieu habite en nous. Ah, ça devient très concret, la Trinité. Si on prend les choses comme ça, c'est très concret.
Oui. Donc, la conception que vous avez de la Sainte Trinité concerne donc l'humain.
Notre vie très concrète.
Très concrètement.
Et socialement aussi.
Oui.
La recherche du bien commun, ça c'est commun, c'est l'unité, mais aussi le respect des différences, la liberté. Ouais. C'est deux grands principes, au fond, de l'éthique sociale.
Oui, oui. Oui. Vous avez écrit « Plus je m'approche de Dieu, plus il me rend à moi-même et plus je deviens moi-même ». Il me semble que cette affirmation mériterait un long développement. Expliquez-nous comment on devient soi-même en s'approchant de Dieu.
Partons de notre expérience humaine. Je prends un homme et une femme dans un couple. L'homme ne devient pas la femme et la femme ne devient pas l'homme. Et pourtant, ils deviennent davantage eux-mêmes grâce à l'autre.
Oui.
Plus ils s'aiment, plus ils sont renvoyés chacun à ce qu'ils sont. Donc, c'est aimer sans dévorer, si on peut dire. Mm-hmm. Aimer sans dévorer l'autre, donc sans annihiler la différence avec l'autre, mais au contraire, promouvoir l'autre dans sa différence. C'est quand même ça l'amour, me semble-t-il. Mm-hmm. Qui fait à la fois une unité, mais une différence. Bon, si c'est vrai au niveau des relations humaines, je dirais a fortiori en Dieu, ou en d'autres termes, si vous voulez, l'amour de Dieu n'est pas fusionnel. On ne se fond pas en Dieu.
Oui.
On n'est pas comme certaines religions disent ça. On serait comme une petite flamme
qui
retourne dans un grand feu et que Dieu serait le grand feu. Mm-hmm. Nous serons des petites flammes qui vont rejoindre le grand feu.
Dans le grand tout.
Oui, comme mm-hmm. un fleuve, comme tous les fleuves vont vers l'océan. Eh bien, c'est pas comme ça que dans le christianisme, en tous les cas, on pense la relation à Dieu. L'amour de Dieu est non fusionnel. C'est-à-dire, plus je m'approche de lui, plus il me renvoie à moi-même, et plus il me crée en ce sens-là. Mmh. Et en ce sens-là aussi, aimer Dieu, c'est s'aimer soi-même.
Oui.
Si je m'approche de Dieu, je m'aime moi-même. Et ça, je crois que de dire ça, ça prend à contre-pied ce qui existe quand même dans la culture d'aujourd'hui, où on dit, si Dieu existe, je n'existe plus.
Oui.
Si Dieu existe, je suis son serviteur, un serviteur obéissant, je suis annihilé. Mmh. Je suis plus petit, donc je suis annihilé, donc je préfère que Dieu n'existe pas.
Oui, c'est ça.
Comme
ça,
alors oui. c'est ou bien c'est Dieu ou c'est moi. Quoi. Mmh. Alors c'est conflictuel. Or ici, dans la vision trinitaire des choses, la relation n'est pas conflictuelle.
Ouais.
Plus je m'approche de lui, plus je suis renvoyé à moi-même. Plus je m'approche de lui, plus il me crée. Donc j'accomplis ma création, de certaine façon. Il accomplit ma création lorsque je m'approche de Dieu. Mm-hmm. Ce n'est pas mon concurrent.
Mm-hmm.
C'est pas mon concurrent.
Ouais, je comprends.
Et son amour n'est pas dévorant.
Ouais.
Il y a des amours pervers et dévorants.
Mm-hmm. Ouais.
On n'est pas vampirisé par Dieu.
Non.
On est soi-même, au fond.
C'est ça.
Et vraiment soi-même. En ce sens, c'est une liberté, une grande liberté.
Au final, et après avoir revisité ces concepts qui forment la vie de foi d'un chrétien, quels en sont les effets? Et pour reprendre votre expression, qui fait éprouver notre vie comme sauvée, comme libérée, libre.
Oui, on vient de parler de la liberté maintenant.
Oui.
Je dirais une chose, pareil, une première chose à dire qu'on pourrait dire, c'est on est libéré de la peur de Dieu.
On a eu longtemps peur de Dieu.
On a longtemps regardé, d'ailleurs, dès le premier texte de la Bible. Quand Adam, c'est un récit symbolique, bien entendu, quand Adam est dans le jardin, là, il se cache. Mm. Et alors Dieu lui dit, pourquoi te caches-tu? Parce que j'ai eu peur.
Ouais.
Alors, c'est justement, la première liberté, c'est de sortir de cette peur de Dieu. Sortir définitivement de cette peur de Dieu. Saint Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit de fils qui vous fait dire à Dieu, Abba, Père.
Mm. Oui,
c'est une transformation énorme.
Oui.
Mais les peurs existent toujours. Donc c'est toujours quand même un travail, toujours un effort. C'est comme ça, je pense, dans l'Eucharistie, on dit « nous osons dire mm-hmm. à Dieu, notre Père ah. ». C'est comme s'il y avait toujours quand même, la peur est toujours là.
Oui,
Mais on est toujours invité, jour après jour, à la traverser, à la dépasser. Nous osons dire, on s'arrache. Au fond, le christianisme nous arrache à cette peur-là. Mm. Et puis si on est arraché de cette peur, si on n'a pas peur, On est libre aussi pour désirer. On n'est plus dominé par le péché non plus.
Ah ouais.
En ce sens que on reste toujours pécheur. C'est-à-dire on est toujours imparfait. On est toujours pris dans la violence. Mm. Mais nous ne sommes plus dominés par le péché.
Le sentiment de culpabilité.
Par le sentiment de culpabilité, parce qu'on sait qu'on est toujours aimé malgré tout.
Oui.
Et donc en fait on est constamment relevé du sentiment de culpabilité. Ah. C'est vrai qu'on dit parfois le christianisme est culpabilisant. Mais si on y réfléchit bien, il nous déculpabilise tout le temps.
Mm-hmm.
Parce que le péché n'est pas le dernier mot. Mm-hmm. Jamais le dernier mot. Et si je suis pécheur, je sais que je suis aimé. Si je suis aimé, je peux m'aimer.
Mm-hmm.
Je suis aimable. Oui, et donc, ça. Je suis toujours constamment relevé du mépris que je pourrais avoir pour moi-même.
Il fut un temps où la foi, on le sait, chez nous comme chez vous, allait de soi. On naissait chrétien, on mourait chrétien, sans se poser de questions. D'après vous, qu'est-ce qui a amené les gens à questionner leur foi avec autant d'acuité?
Mais je pense que la modernité a apporté ça. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on entend par modernité? C'est la raison philosophique, oser penser par soi-même.
Mm-hmm.
C'est les droits de l'homme, ce sont les sciences,
oui.
Et c'est la démocratie.
Oui.
Alors, dans
toutes
un
des
monde...
choses très positives,
ah, oui,
du reste.
Oui. D'ailleurs, ce sont des fruits du christianisme, ça.
Oui.
Les droits de l'homme, la raison philosophique, les sciences, pas uniquement, en tous les cas... pas uniquement du christianisme, mais le christianisme a promu
oui.
cela. Donc, donc d'une certaine façon, c'est à l'intérieur du christianisme qu'on a pris distance par rapport au christianisme et qu'on l'a questionné, qu'on l'a critiqué. Mais c'est un fruit du christianisme.
Oui. Oui.
Et l'éducation, forcément, il y a eu un progrès d'éducation énorme, évidemment, depuis des siècles. Mais cette éducation rend plus critique, forcément. Forcément. Donc, il y a eu un aspect de critique par rapport à la foi, de prise de distance. De telle sorte, l'avantage, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'adhésion de foi devient une démarche de liberté.
Ah oui.
Avant, pourrait-on dire, on têtait la foi comme on têtait l'aide de sa mère.
Mm-hmm.
Mais dans la modernité, ça ne va plus comme ça. Mm-hmm.
C'est un acte de liberté.
C'est ça. Et forcément, si c'est un acte de liberté, ça suppose questionnement, doute, critique, débat, traversée de résistance.
Oui. Vous disiez en début d'émission que la foi chrétienne n'est pas nécessaire pour vivre une vie joyeuse et une vie sensée. Des gens comme André Comte-Sponville, par exemple, vivent sans Dieu et se disent heureux. Alors, que répondez-vous, par exemple, aux arguments d'un athée comme André Comte-Sponville?
Je dirais, je ne vais pas répondre aux arguments. C'est une manière de vivre qui est tout à fait légitime. Je peux comprendre que quelqu'un puisse vivre sans Dieu de manière sensée, généreuse. Et je peux y reconnaître, moi, comme chrétien, je peux y reconnaître l'œuvre de Dieu dans la mesure où il y a de l'amour. Si le consentement à l'amour, c'est ce que j'ai dit en commençant, au fond, le consentement à l'amour suffit. Donc, je ne vais pas répondre à ce qu'on se prend vite sur le plan des arguments. Mais on peut dire, je dirais quand même, pour qu'on se prend vite, ce qu'il nous dit, c'est aimer davantage, mais espérer moins. Mais espérer moins.
Ah oui. Hein.
Il faut être lucide devant la mort. Il ne faut pas vouloir dépasser la mort. Donc, aimer davantage, mais espérer moins. Alors, moi, je dirais aussi, comme lui, bien sûr, aimer davantage, mais aussi espérer. Et l'espérance ne nous éloigne pas des réalités de la vie. Au contraire, elle nous invite aussi à être des grands désirants. À être des grands désirants durant notre vie et aussi à l'heure de notre mort, partir en désirant.
Mm-mm. C'est très beau, ça. Ben, écoutez, André Fossillon, on doit s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir répondu donc à nos questions. Je dirais votre proposition d'un Dieu bon et libérateur, qui est en fait un don, comme vous le dites si bien, gratuit, un don précieux, et qui pousse toujours vers les autres, permet la reconnaissance et rend Dieu désirable. Comme le titre de votre livre le dit si bien. J'en ai encore plus la conviction après cette conversation avec vous. Alors, au nom de tous les auditeurs de Radio Ville-Marie, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier aussi.
Oui, et je vous souhaite un bon retour chez vous en Belgique.
Merci.
Je remercie bien chaleureusement André Fossillon, professeur au Centre international l'humanité à Bruxelles, en Belgique. Je vous rappelle que notre invité a publié aux éditions Novalis et l'humanité « Dieu désirable, proposition de la foi et initiation ». Je remercie Marc Chevary pour son soutien technique. Merci à Francine Robert qui coordonne cette série d'émissions. Je vous rappelle que Francine vous donne au fil des semaines les informations sur les émissions de Croire d'hier à demain, ainsi que des ouvrages sur les sujets qui sont abordés à cette émission. Je vous redonne l'adresse www.ipastorale.ca. Croire d'hier à demain est une série d'émissions réalisées dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal pour Radio Ville-Marie. C'est Christine Cossette au microphone qui vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.